Apéro spécial tanking.
Boum, les gros tanks, il est là. Boum.
Je vais même lui enlever sa capote, tiens, tu vois. Voilà. Ça va faire rien.
Oula.
Pardon. Attention, apéro spécial tanking.
Casse pas le tank. Enfin, en même temps, ça pourrait peut-être faire plaisir à Adam Silver.
Exactement.
C'est l'idée.
Ouais. On est ici pour parler du tanking. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas sur un comparatif et un benchmark des différents Panzers qui existent en circulation. On est là pour parler du phénomène tanking en NBA, phénomène qui date d'il y a très longtemps. Hein. On pourra faire un point historique d'ailleurs.
Qui est devenu une stratégie. Hein.
Qui est devenu une vraie stratégie.
C'est le sujet d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un sujet aujourd'hui.
Eh oui! Au-delà du fait qu'on est fin février, début mars, et que donc pour certains ça va être la course à c'est qui perd le plus de matchs. L'actualité a parlé de tanking récemment. Pourquoi ? Parce que je vous donne toutes les infos, vous le savez peut-être, on a eu la pause du All-Star Weekend, il y a eu la conférence de presse du patron, ou comme j'aime dire chez moi, le second chauve le plus important de la planète basket. Franchement, en vrai, l'assist était très belle.
Ouais.
Et donc, Adam Silver nous a dit qu'il y aurait des potentielles modifications des règles au sein de la NBA.
Ils ont l'air bien déter. Hein.
Ils ont l'air bien déter. C'était le sujet numéro un là, des discussions avec le Board of Governors et les différents propriétaires.
Les Pacers.
Pardon.
Fallait pas le dire.
Le Jazz, les Wizards, les Pacers, ouais. Tout ça, etc. En effet, il y a des suggestions en ce moment, des échanges au plus haut niveau de la NBA pour essayer de contrer le tanking. Ça pourrait s'implanter la saison prochaine. On va refaire un petit peu de vulgarisation sur tout ça, mais je donne toutes les infos. Parmi les règles qui ont été évoquées, proposées, discutées, ça ne veut pas dire qu'elles vont être implantées, mais pour vous donner une idée, il y a la possibilité notamment que les probabilités de la loterie s'arrêtent à la trade deadline.
Ça, c'est donc, là, Bastien va vous énumérer les idées qui ont été discutées dans les boards et tout.
Exactement.
Et pour l'instant, rien n'est acté.
Rien n'est acté. Je vous donne juste les infos et vous avez le droit entre vous de dire c'est de
donc,
la grosse merde ou c'est la chose.
Les odds qui s'arrêtent à la loterie. Ça veut dire en gros, bah, l'idée c'est genre ça sert à rien de tanker en mars pour être encore moins bien classé vu que de toute façon, c'est calé la loterie.
Hop, on le sait, l'ordre de la loterie sera le suivant au 15 février.
Les odds qui s'arrêtent à, oui, voilà, à la deadline, quoi. Enfin, au All-Star Game. Quoi.
Tout à fait.
Les odds, c'est les probabilités. Quoi.
Exactement. La possibilité uniquement de protéger vos picks pour le top 4 ou pour le top 14. Ça, c'est la Clippers Rule. C'est-à-dire qu'on a vu un transfert entre les Clippers là et les Pacers où ils ont dit « Oui, oui, Ivica Zubac contre Bénédicte Mathurin, mais nous, on protège de 1 à 4 et de 8 à 30. » Tu sais, ouais. Ils commencent à avoir des protections maintenant. C'est devenu un peu la règle.
Bon, oui. Enfin, bon, je vais commenter plus tard. Vas-y, enchaîne.
Impossibilité pour les équipes de sélectionner dans le top 4 deux années de suite, et qui est la Spurs Rule. Bon, bravo les mecs, vous avez Wemby, Castle et Harper en 3 ans. Voilà. Une équipe a l'impossibilité de sélectionner dans le top 4 de la draft l'année qui suit une présence en finale de conférence. Voilà. Léonce qui se marre.
Pas grand-chose.
Et franchement, la loterie.
Ça, c'est vraiment la Pacers Rule.
Oui, tout à fait.
Celle-là, c'est vraiment, la on y est là.
C'est les Pacers, pour ceux qui ne comprennent pas avec
Alex,
qui ont été en finale NBA.
Ah,
là, tank comme des oeufs parce qu'il y a Tyrese Haliburton qui est
parce qu'ils ont leur meilleur joueur qui s'est fait le tendon d'Achille.
Exactement. Bref. Et donc, ils disent tant que la saison, on va repartir avec Tyrese Haliburton et un top 4.
Et J.D. Bansa. Enfin, on verra lequel.
Les probabilités de la loterie qui serait calculé sur deux saisons consécutives.
Ça, c'est que la c'est deuxième pas... Pacers Rule.
Tout à fait.
C'est vrai, franchement.
C'est anti-Pacers total. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est notamment implanté en WNBA. Ça a ce côté sur deux ans, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est, ils le prennent.
En gros, tu empêches les équipes de tanker juste une année parce qu'il y a eu une grosse blessure ou quoi.
C'est ça. Parce qu'il peut y avoir des changements d'une année à l'autre. Bon. Ah non, mais de toute façon, vous ne voyez pas la tête de Léonce, mais on va pouvoir discuter de tout ça. La loterie inclurait par la suite les équipes du play-in. Puisque en fait, bon, voilà,
ah,
actuellement...
C'est vraiment une récompense à la médiocrité, quoi.
Et on va y venir. Et enfin, la possibilité de totalement mettre à l'équilibre toutes les équipes de la loterie, c'est-à-dire vous avez tous le même pourcentage d'avoir le premier choix de la draft.
Donc là, on renie complètement le concept de la draft au départ, qui est de dire que les moins bonnes équipes, enfin de la loterie de draft, les moins bonnes équipes vont quand même bénéficier à peu de choses près des meilleurs jeunes. Ou en tout cas, elles vont les choisir en premier. Après, à elles de bien choisir. Parce que, non mais, juste, c'est quand même ça. Le concept au départ, c'est ça. C'est d'essayer d'avoir un truc cyclique, de que ça soit pas tout le temps les mêmes équipes qui soient championnes NBA.
On vient de voir un Spurs Pistons qui, il y a 3 ans, était la pire affiche de NBA.
Voilà. Et Et que le Thunder, champion de l'année dernière, s'est construit en majeure partie grâce à la draft. Mm-hmm. Les Nuggets aussi, c'est quand même de la draft. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le concept de base est celui-là. C'est-à-dire qu'il est assez clair, les moins bonnes équipes récupèrent les meilleurs joueurs. C'est pas tout à fait le cas à chaque fois, mais vous avez compris l'idée, mm-hmm. quoi. Plus tu fais une mauvaise saison, plus t'as de chances d'avoir les plus hauts pics de la draft d'après. C'est un concept qui est clair et donc qui est devenu une partie, voire toute la stratégie de certaines équipes. Mm-hmm. Bon, pourquoi on vient cette année...
Quoi ?
C'est pas vrai ce que tu dis.
Ah, de quoi ?
C'est pour intéresser des propriétaires à avoir des franchises aussi pourries, c'est de capitalisme. Enfin, tu vois,
oui, bien sûr, mais là, que je veux dire par récompenser la médiocrité, c'est qu'en NBA, on met un avantage au fait d'être mauvais.
Ah, mais bien sûr, mais Léonce, il a raison.
Ouais.
C'est pour faire en sorte que toutes les franchises soient un peu intéressées d'un point de vue
bien
sportif
sûr.
Et donc d'un point de vue business. Mais ce que je veux dire, je suis pas en train de dire il est bien ou il est pas bien le concept. Je suis en train de dire, on a un concept qui est clair, qui est comme ça depuis longtemps, dont les équipes jouent certaines années et dont elles ne jouent pas d'autres années, parce qu'en fait, ça tourne quand même pas mal, à part de très faibles cas, les équipes elles tankent pas non plus pendant 15 ans quoi, tu vois, genre non, tu peux être nul et tout machin.
Salut,
Simon. Et là tout d'un coup, même pas Simon, il était en play-off contre les Warriors avec les
Oui,
on était au Grand Rex pour le voir.
J'ai des preuves.
Et là tout d'un coup, on fait les choquer. Oui, les équipes nulles, elles sont nulles, elles essaient d'avoir les meilleurs joueurs. Il y a une cuvée de grands malades mentaux là
en
2026.
C'est normal.
Et en 2024, le tanking, il était pas aussi vénère. Hein. Pardon, hein, mais
désolé,
c'est vrai. Bah ouais, mais désolé, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Moi, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu, parce que je dis pas qu'il y a rien à dire autour du tanking, et qu'il y a des propositions d'ailleurs qui peuvent être intéressantes là dans ce que t'as évoqué et tout, mais juste, on a des matchs qui sont trop hachés. On a des reviews qui sont interminables. Il y a des audiences de matchs en direct qui sont graves en baisse. L'arbitrage... difficile à suivre, parce que je suis un garçon poli, donc je dis difficile à suivre.
C'est de la grosse merde.
En termes de linéarité, on comprend que dalle aux décisions. Il y a un vrai problème de rythme et de calendrier. Les mecs se blessent au mollet à tous les coins de rue. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est tanking, c'est pas bien. Vas-y, c'est bon. Ah, non. Là, moi, ça m'a saoulé. Hein. Perso, moi, j'étais là, genre, c'est même pas top 3 des priorités de la NBA actuelle, normalement.
Absolument.
Normalement.
Et c'est,
voilà.
Et
donc là, vraiment, et tout d'un coup, cette année, on s'excite parce que les Wizards, les Pacers vont avoir des super joueurs. Putain, laissez-les tranquilles.
C'est très petite vision de la part de la NBA qui se focalise sur un problème qui, en plus, date pas d'hier. Enfin, je veux dire, oui, en effet, on parle de 2024, mais...
rigole, ça. C'est depuis qu'il y a de la loterie. Depuis qu'il y a de la loterie.
L'année même de la loterie.
Et même avant, hein, quand c'était dans l'ordre qu'il y avait le pile ou face et tout, les mecs essayaient plutôt d'être derniers. Enfin,
le tanking ne date pas de là. C'est pas un phénomène pour ceux qui en profitent pour se prendre notamment peut-être un coup d'histoire.
Pourquoi on s'excite là tout d'un coup cette année? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi
on s'excite? Alors, plusieurs choses. La NBA nous l'a montré, on aura l'occasion de faire un point d'ailleurs sur le bilan de Adam Silver au bout de quelques années.
Ah, le mec, il change un truc tous les ans, faut qu'il y ait un truc qui change, putain. On se croirait sur...
Old Man Yelling at the Cloud.
On se croirait sur
Amazon.
On est
pas content.
Oh, c'est casse-couille, franchement.
Moi, en vrai, sur ce qui s'est passé récemment en NBA, il y a des tentatives, comme tu le dis, de changer les choses. Et un de mes problèmes que tu soulignes là, c'est que parfois, la vision, elle est trop court-termiste. C'est-à-dire que... Là, on avait eu un problème en 2019, on s'est dit, bon, bah tiens, on va créer le play-in tournament. Bon, pourquoi pas, pour essayer de rendre une fin de saison un peu plus intéressante, pour qu'il y ait des équipes qui se battent un peu, parce que c'était ça l'idée. On en revient au même problème, c'est à partir de mars, il y a des équipes qui n'ont plus rien à foutre. Ce que ça a créé, c'est que maintenant, il y a eu 2-3 exemples un petit peu...
Parce qu'elle a réduit le calendrier.
Comment?
Réduit le calendrier.
Sinon, on a réduit le calendrier.
Ah, franchement, on n'arrête pas d'en parler. Il y a des blessures dans tous les coins. Oui, bah d'accord, j'ai bien compris qu'il y avait le pognon des business derrière. Ça, j'ai bien capté. Mais... là,
je suis le premier à vouloir réduire depuis longtemps.
On est en train de prendre un cas particulier pour faire des règles et en faire une généralité. Je déteste ça.
Parce que Adam Silver l'a vu là et la NBA l'a vu, c'est que ça a été poussé, comme tu le dis, parce que la draft 2026 a un très très haut potentiel tout en haut. C'est évident. Et de deux, parce qu'on a eu là, de manière assez flagrante, des équipes qui ont été sanctionnées parce que c'est même plus caché. C'est-à-dire que
c'est pas de cette année, ça. Hein.
Tout à fait. Mais ce qui se passait précédemment, c'est qu'il y avait des équipes qui le faisaient un petit peu, et parce que ça passait un petit peu, la NBA ne sanctionnait pas trop. Allez, une fois, ils ont mis une tape sur les Mavs parce qu'ils ont dit, oh, Mark Cuban, t'étais dans un podcast, t'as dit que vous tankiez. C'est l'année de Derek Lively.
Tout à fait.
Et ils se sont fait prendre une amende dans la gueule. Là, ce qui était flagrant, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait, oh putain, le Jazz, on est dans le quatrième quart-temps, et les mecs, il y a tous les titulaires qui sont sur le banc, en survêt, alors qu'ils sont normalement en capacité de jouer. Et le problème de la NBA, c'est qu'ils voient ça et ils disent « il faut qu'on s'occupe de ce problème Alors que le problème est beaucoup plus large, comme tu le dis, c'est même pas une des trois choses dont il faudrait s'occuper aujourd'hui.
Bah, disons que, encore une fois, les propositions là, que tu as énumérées, Bastien, on va revenir dessus, il y a des trucs pas inintéressants. Moi, je suis pas un fan absolu du tanking. En revanche, une règle qui existe depuis longtemps, dont les équipes se servent à tour de rôle dans leur stratégie, genre, et tout d'un coup, on veut complètement l'enlever sous prétexte que cette année, ça s'est un peu trop vu, et puis quoi, c'est des petits marchés qui tankent, alors les gros joueurs vont aller dans des petits marchés. Ah, vas-y, c'est bon, on a capté. Tu vois, genre, moi, j'avoue
que... C'est courte vision.
Ouais, et puis j'ai même vu des mecs qui disaient, ouais, la meilleure solution, c'est carrément de virer la draft.
Non, alors ça,
les jeunes joueurs,
ah,
ils sont tous agents libres et tout. Bah allons-y, bah non, bien mais... sûr, puis comme ça tous les gros joueurs ils vont aux Lakers ou aux Knicks.
Bah, hors de question, alors ça, merci. Parlons-en. J'ai vu ce
c'est
j'ai
complètement...
vu ça,
franchement,
là.
C'est un scandale.
J'ai vu la rumeur, bon, qui
non,
j'espère
c'était qu'une rumeur.
Bien sûr. Que les gens voudraient envisager l'abolition de la draft.
D'accord. Alors là, du coup, on aura une course à la faire de la place dans la masse salariale, tu
l'enfer.
Sais, pour dire à Cooper Flagg, hey, nous on te file le plus gros contrat, mon poteau, hein. Viens.
L'enfer. Please, gardons la draft, parce que c'est un truc extraordinaire qui change des villes, des destinées, des legacy, des tout ce que tu veux. Donc, on garde ça. Par rapport au tanking,
vas-y.
Le problème réel là que la NBA, par contre, peut affronter s'il le désire, c'est que c'est factuel. La saison NBA est beaucoup trop longue et fait que tu te retrouves là assez tôt, début février, début mars, sur des rencontres où ça n'a aucun sens sportif. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont aptes, qui sont capables, et on va les cryo réfrigérer, on va les laisser en fait au repos et ils ne vont plus jouer. Là, il y a des gars, là, ils n'ont plus rien à jouer. On ne sait même pas si Yanis va revenir avec les Bucks, parce que les Bucks, on va essayer de bottom, on va voir ce qui va se passer. Et il n'a pas de raison de pouvoir revenir. Il y a plein de franchises qui sont comme ça. Il n'y a pas de raison pour lesquelles Tyrese Haliburton devrait tenter un potentiel comeback ou quoi que ce soit. Les Wizards ont fait une pré-free agency, ils ont pris Trae Young et Anthony Davis, ils ont fait « Ouh là là là, prenez votre temps pour revenir les frères, parce que nous, on va aller chercher notre pic de draft. » Donc c'est réel, la NBA a un problème depuis longtemps, ils ont essayé avec le play-in de le modifier un petit peu, c'est en mars, tu as des matchs qui crachent sur l'équité du jeu, et sur l'ADN du jeu même du sport, qui est normalement d'être compétitif.
Donc l'idée, c'est de ramener un peu de compétitivité tout au long de la saison.
Absolument.
Donc il faut commencer par avoir moins de matchs.
Commencer, un, par réduire le nombre de matchs, tout à fait.
Un meilleur arbitrage aussi, moi je ne suis pas contre.
Tout à fait.
En tout cas, ce que j'en... Je ne veux pas forcément aux arbitres, je ne dis pas que les arbitres font jamais d'erreurs et tout, mais un peu plus
revoir
de linéarité dans les coups de sifflet.
Eh oui. Et du coup, vois, c'est genre... au-dessus, c'est revoir la façon dont les arbitres travaillent en NBA et tout, parce que attention, eux aussi, ils sont dans un cadre dans lequel ils travaillent, c'est compliqué quand même.
Donc,
les trios
mais de la linéarité, qu'on y comprenne quelque chose, que d'un coup de sifflet à l'autre, on ne soit pas là en train de se dire « Attends, je ne comprends pas ce qu'au premier quart... »
Hier soir, c'était pas du tout.
Ouais, voilà.
Ah, bien
tu
sûr.
Vois.
Donc déjà, ok, sur le sujet de modifier le calendrier, ça là-dessus, on est d'accord. Même si tu as une soixantaine de matchs,
bah déjà,
tu vas modifier certaines choses au niveau de la compétitivité, de la présence des joueurs. D'ailleurs, ils ont mis la règle des 65 matchs aussi pour avoir des incentives sur les joueurs d'être là. Là, on le voit, on ne sait même pas qui va être MVP cette saison parce qu'il y a tellement de matchs.
Forcément une partie de tanking.
Tu auras forcément enlevé. Mais ce que je disais là un peu en rigolant sur le récompenser la médiocrité, c'est que le système actuel de la loterie fait que plus tu perds, plus tu augmentes tes chances. C'est factuel.
Plus tu as de chances d'avoir les plus hauts pics de draft.
C'est ça.
On a bien vu que ça reste très trop bas et que tu as des équipes qui montent,
les Hawks,
les Spurs.
Tout à fait. Et que c'est pas parce que tu as le pire bilan que tu finis, le fameux curse du pire bilan qui a fini tout le temps 5e, les Pistons, là, quand ils sont eu Roland, Giannagli et compagnie.
Donc, moi, le truc, allez, positif, quand même, que je peux sortir de ça, c'est que. Quelles que soient les mesures là, parmi celles que tu as citées là, qui pourraient être adoptées, bon, il y en a certaines qui me paraissent pas bonnes, mais bon, après, c'est une discussion.
C'est cumulé sur un
ça, le but, ce serait de rendre le côté loterie et draft une éventuelle opportunité, de rendre ça vraiment de manière plus ponctuelle, plutôt qu'une stratégie globale de franchise. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire obliger les GM à être un peu meilleurs, à mieux négocier les contrats, à mieux faire leur trade plutôt que juste tanker pour drafter de la star. Ça, je peux l'entendre. Ça, je peux vraiment entendre ça. Mais dans ce cas-là, il faut maintenir l'esprit, au départ, l'esprit de la loterie et de la draft. C'est-à-dire de se dire, on est dans une ligue fermée, on n'a pas envie que ça soit...
Il n'y a pas de relégation.
Tous les ans, les mêmes équipes en finale de conf, tu vois, un truc comme ça. Donc, bah, y a un système simples et qui fonctionnent déjà depuis pas mal d'années, qui permettent de renouveler, on n'en arrête pas de le dire, là, on a eu plein de champions différents, ouais. C'est tellement dur de faire un back-to-back et tout.
À Paris,
c'est
aussi, jamais été aussi
parce que les autres équipes, elles progressent, mmh. C'est aussi parce que la NBA, c'est très élitiste et que tous les ans, t'as 60 joueurs draftés et quoi, 40 35, 40, qui intègrent vraiment les effets, allez, 30, qui intègrent vraiment les effectifs des équipes NBA, donc qui, par définition, vont prendre la place d'autres mecs, donc tu crées de la compétition.
Il n'y a que 500 postes par an.
Il y a, ouais, 450.
Et t'as 60
ouais,
500, mecs potentiels ouais. qui arrivent chaque
année. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est 10%, énorme. Enfin, tu vois, c'est énorme. Donc, ça, moi, j'avoue, j'ai pas envie que ça soit trop modifié parce que je trouve que c'est un des fondements intéressants dans cette ligue qu'est la NBA et deux, putain je le redis mais genre d'où c'est devenu une priorité
non mais là ils sont à côté de la plaque
n'importe quoi
tout à fait sur l'aspect purement loterie
ouais.
On est d'accord tu le dis c'est un des trucs fondamentaux de ce qui fait qu'il peut y avoir une forme de parité. La NBA a fait une modification là pareil il y a 6 ans sur les probas. Pour ceux qui ne le savent pas, avant, on avait, quand tu avais le pire bilan, tu avais jusqu'à t'avais 25% de chance d'avoir le numéro 1 de la draft. Donc, c'était encore plus extraordinaire si tu ne l'avais pas. Et je sais plus, je crois que c'était 25, 19, 17.
Je sais plus, mais voilà. Oui, c'était moins progressif.
À partir de 2019, on a mis...
Tout le monde à 14%.
Le top 5 ou le top
3 à
14%, à 14% ouais. etc. On est tout à fait d'accord tous les deux sur le fait que ce n'est pas un sujet prioritaire. Mais si on devait se pencher sur le sujet.
Ah oui, non, mais on va s'y pencher, c'est intéressant.
Est-ce que tu conserverais la loterie telle qu'elle est faite actuellement ou est-ce que tu envisagerais de la modifier?
Alors, moi déjà, il y a des trucs dans ce que tu as cité où je suis chaud pour procéder par genre élimination. Mmh. Genre, la même probabilité pour toutes les équipes en loterie. Non, je suis pas d'accord, moi.
Parce que,
du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, une équipe un peu mid, genre on va récompenser les équipes mid maintenant? Merde, quoi. Non. C'est-à-dire qu'une équipe un peu mid, borderline play-in ou play-in, elle va avoir la même proba d'avoir le first pick que les Pacers? Moi, je suis pas d'accord. Non? Je suis pas d'accord.
Moi, j'avoue.
Moi, je suis pas d'accord.
J'envisage.
Ah ouais? Oh non, oh non. C'est quoi donc? Non.
Une loterie, c'est une loterie. Je ne comprends pas. Parfois, le concept
les équipes de loterie, loterie j'ai dit, hein, pour fait... moi, c'est celles qui sont hors play-off.
Tout à fait, c'est, 14, c'est les 14 buteurs.
On parle des mêmes, non, qu'on soit
fait.
Bien clair.
Okay. Oui, tout à fait. Moi, j'avoue, pour moi, une loterie, c'est les tickets. J'ai pas plus de chance que Léonce ou toi d'avoir un ticket qui sort gagnant pour moi. On devrait avoir les mêmes probabilités. C'est-à-dire que oui, parfois, tu vas avoir des années où en fait, une équipe qui a été peut-être en play-in remporte le premier choix de la draft. Peut-être. Moi, ce que j'aime bien avec cette potentielle idée de mettre les mêmes pourcentages pour les 12 ou 14 pires équipes de l'NBA, c'est que du jour au lendemain, ça par contre c'est factuel, du jour au lendemain, le mot tanking quasi disparaît. Parce que si tu dis que toutes les probabilités sont les mêmes au moment où la loterie va avoir lieu, on ne peut plus regarder un mec qui fait un match de merde ou un coach qui repose ses joueurs en mars et dire il tank. Mais non mec, tu tankes pas puisque tout le monde va avoir les mêmes probabilités. Donc le terme en lui-même peut disparaître. Attention, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais je trouve que sur le mot tanking, c'est un des trucs qui peut le mieux marcher. Je ne te dis pas que je suis hyper fan, mais c'est une option.
Ouais, mais tu vois, par exemple, bon, peut-être que tu enlèves du tanking en fin de saison, encore que...
Il y aura toujours des gens qui contournent.
Qui contourneront, qui trouveront d'autres options ou quoi, on verra. Mais surtout, genre, de toute façon, quand tu es au bottom, quel intérêt, tu vois, tu as intérêt à pas prendre de risques avec tes jeunes joueurs, tu fais jouer tes mecs, tu refais pas jouer.
Oui.
Bon. On verra toujours des matchs un peu chelous.
Ouais.
Ensuite, qu'est-ce que tu fais du play-in, du coup? Parce que je rappelle que les éliminés du play-in se retrouvent dans les équipes de loterie chaque année.
Ouais.
Du coup, ça veut dire que si t'es 8e, mais que concrètement, tu vas peut-être te qualifier en play-off pour te faire massacrer par le Thunder, t'as pas intérêt à passer le play-in. T'as plutôt intérêt à aller à la loterie, vu que t'as autant de chances d'avoir le first pick que Utah ou les Pélicans.
Donc c'est à préciser tout à fait comme modèle. C'est-à-dire que je te dis pas que c'est le meilleur.
Non, non, si, mais ce que je veux dire, c'est que
des fights,
c'est là où je trouve que vraiment, genre, ils vont essayer de faire des trucs contre le tanking, mais je veux dire, tu vas repousser un problème pour en créer un nouveau.
C'est le plus gros problème, c'est ça. C'est qu'en fait, ils essayent de boucher un trou pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une nouveauté.
Toi, ça te plaît bien, ça.
En fait, c'est pas que ça me plaît bien, c'est que j'ai fait le listing comme toi de toutes les propositions et je me dis, qu'est-ce qui peut. En fait, en gros, c'est quoi? Est-ce qu'on conserve le système tel qu'il est? Et c'est comme ça, depuis la nuit des temps de la NBA, et c'est comme ça, il va y avoir des gens qui
tankent. Alors, si avec moi, oui.
Moi, pareil. Aujourd'hui,
si avec moi, oui. Éventuellement, on revoit les probabilités.
C'est ça.
À la loterie, éventuellement.
Moi, c'est le seul chemin que j'envisage. C'est celui-là, c'est revoir les probabilités, comme je disais. Peut-être pas que tout le monde soit au même niveau, encore que, ou peut-être en tout cas les 10 pires, ou les 8 pires, je sais pas, tu vois. Mais essayer d'être un petit peu plus flat, parce que je trouve qu'en l'état, même si on a des éventuelles surprises, comme Dallas et Atlanta l'ont montré sur les dernières loteries,
il y a des surprises.
Mais comme tu peux aussi avoir des surprises au play-in, c'est-à-dire que la NBA était très contente de voir Miami aller jusqu'en finale NBA en 2023, qui était une équipe 8e, qui a montré que si tu es dans une bonne dynamique, tu peux essayer d'aller très très loin. Pour moi, on ne touche à rien. On garderait le système tel qu'il est. C'est une cuvée de draft extraordinaire, donc ils sont en train de monter sur leurs grands chevaux parce qu'il y a des équipes qui tankent très activement.
Les probas
ils sont à côté de la plaque là-dessus.
Basés sur deux saisons.
Moi, j'aime pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent d'un été à l'autre.
Donc c'est un peu pareil que pour ceux si t'es allé en finale de conf. Franchement, ça peut arriver. Tu vas en finale de conf, ça se passe pas comme tu veux. T'as une blessure pendant l'été, t'as un transfert à la con, t'as Star qui veut se barrer, et derrière tu fais une saison de merde. Ça peut arriver, franchement.
Il y a tellement de choses qui changent d'une saison à l'autre, regarde-toi, ouais. Ryan.
Non, mais je suis
à Phoenix,
moi,
entre la saison dernière et cette saison, ça n'a rien à voir. Est-ce que du coup il faut récompenser deux années de merde de suite? Moi je suis pas d'accord parce que du coup derrière ce que ça va créer pour moi comme problème, c'est qu'il y a des équipes qui vont tanker encore plus activement, qui vont se dire ah c'est sur deux ans désormais, regarde-moi bien gagner 18 matchs en 24 mois. Ça va être un enfer.
Bah ouais.
Donc logique. Moi j'aime pas celle-là.
Ok, moi non plus.
Les protections sur les pics de draft,
pourquoi pas. Eh, franchement on est à la marge là. Hein.
Voilà.
On est dans de la modif, on est vraiment dans, tu sais, en mode on déplace les virgules là.
Oui.
Non, tout doucement. À fait. Les probabilités de loterie qui seraient arrêtées plus tôt.
Moi, j'aime pas. Enfin, je comprends l'idée, mais ça ne va absolument pas empêcher les équipes de faire n'importe quoi.
C'est une équipe qui fait un run.
Ouais, tout à fait.
C'est une équipe qui fait un run en sachant que. Ah, on a le second pic, les gars, maintenant on peut y aller.
On le sait. Hein. Alors, non, les bilans seraient arrêtés, mais la loterie aurait lieu toujours en mai.
Oui.
Donc, mais,
ils savent pas quel pic, mais ils savent qu'ils ont une bonne probabilité.
Autre option qui a été proposée par Tim Montemps, pour les gens qui écoutent le Hoop Collective, je dis pas qu'elle est bien, je donne les idées. Il a dit All-Star Break, on arrête les bilans, et à partir de All-Star Break, les équipes du bottom 14, là, donc les 14 pires équipes.
Les équipes de loterie.
Celles qui ont le meilleur bilan sur les 30 derniers matchs de la saison augmentent leur chance d'avoir le premier choix de la draft. C'est-à-dire que tu récompenses la compétitivité dans les 30 derniers matchs de la saison. Toi, t'aimes bien ?
C'est compliqué,
c'est
du coup.
Les trucs, au moins, c'est rigolo.
C'est-à-dire que les Nets doivent se battre. Le Jazz doit se battre.
Mais comme à la base, c'est pour récompenser les équipes nulles, enfin les équipes moins fortes.
Mais c'est le problème. C'est que du coup, c'est pour ça que je dis tu récompenses la médiocrité, c'est qu'en l'état, c'est pousser à avoir le moins de victoires possible. Et donc, il y a un problème juste que je peux comprendre, non pas de la NBA, mais même chez les fans, de se dire, qu'est-ce que c'est que cette espèce de ligue où, sur les 30 derniers matchs de la NBA, mieux vaut en perdre 29. C'est, éthiquement, par rapport au sport, c'est quand même un problème.
Et si on arrêtait, je ne l'ai pas vu celle-là, mais moi j'avoue que je me dis que ça pouvait changer des choses aussi. Si, par exemple, on arrêtait d'autoriser les mecs à mettre des pics de draft dans les trades. Tous les ans, t'as ton pic, c'est tout. Point. T'en as qu'un. T'as pas genre les stratégies à la Presti, à la Henge, à la Saminki.
Ah mais comment tu récupères Yanis dans un transfert ?
Comment ça, comment tu récupères Yanis dans un transfert ?
Bah, il faut
si Yanis il a envie de se barrer, il faut que tu mettes des cap fillers ou un bon joueur en échange.
Alors, on
oui.
va faire.
Oui.
On va faire Fred Van Fleet plus Jeff Green.
Oui, mais parce que du coup, tu encourages cette stratégie. C'est-à-dire que les Bucks, si Yanis demande vraiment son transfert un jour et tout, les Bucks, le premier réflexe, c'est de se dire ah, putain, on n'aura jamais un mec de la qualité de Yanis.
Jamais.
Du coup, t'as pas.
Tu fais comment ?
Eh, tu récompenses pas les bons GM. Moi, là, je fais ok, alors vas-y, qui m'offre le plus de pics ? Comme ça, je perds pas la face.
Ah oui.
J'ai eu 4 pics. Du coup, tu encourages le tanking en faisant ce genre de trade parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les Bucks derrière vont dire, oh là, moi je veux pas gagner de match les gars, parce que là moi, sur les 3 prochaines saisons, j'ai 8 first pick. Donc vous êtes gentils, mais je veux bien qu'il soit le plus haut possible. Tu encourages le tanking.
De toute façon, on en a parlé ensemble.
Ça commence comme ça.
On avait parlé ensemble, on avait fait un top 10 de nos takes, etc. Moi je te l'avais dit, la façon dont le système est en place actuellement continue et continuera à récompenser les bons managements. J'aimerais que la NBA se regarde dans un miroir et comprenne que Sacramento, pour ne citer que, ou Washington ces dernières années,
même là,
ça fait
Memphis, c'est un
200 ans qu'ils sont dans le bottom 10 de la NBA. Si t'es exécrable, t'es exécrable. Si ton management est nul à chier, tu vas faire que des choix de merde. Et donc, pour finir,
vas-y,
que les franchises qui actent bien et qui prennent le temps d'avoir un bon management et de prendre des bonnes décisions, de bien scouter les joueurs, c'est ce qui fait que tu te retrouves comme San Antonio, tu remontes beaucoup plus vite la pente.
Elle passe par un peu de tanking. En tout cas, un peu de « je bottom un peu et j'ai des gros choix de draft et je prends des gros joueurs ».
On récompense les bons managements.
Voilà. Et donc, du coup, on voudrait empêcher ce truc-là.
On voudrait babysitter la médiocrité.
Ouais.
Et moi, je trouve ça insupportable.
Donc, travaillons, par exemple, sur le nombre de picks que tu as le droit d'échanger pour que, du coup, les GM ils soient un peu plus obligés de se creuser la tête et de faire des meilleurs trades.
Non, tu peux.
Tu vois, genre, pardon, mais là, regarde ce qu'a fait Memphis. Memphis, ils viennent d'échanger Desmond Bane puis Jaren Jackson Jr. contre des picks.
Oui.
No offense à Kentavious Caldwell-Pope ou qui du Jazz.
Bah voilà.
Pardon.
Voilà. Personne ne sait.
Merci.
Walter Clayton,
des picks.
Drinks et...
Donc, on va dire quoi l'année prochaine quand Memphis, ils vont trader Ja Morant pendant l'été, ils vont se pointer avec une équipe où toi et moi, on connaît un joueur sur deux. Et par contre, on va dire, oh, incroyable, là, tous les picks qu'ils ont, Memphis. Moi, j'aime pas ça.
Alors,
ça, je pense que ça devrait pas être encouragé parce que ça encourage le tanking.
Moi, je te dis par rapport à ça, on a fait un top 10 encore une fois.
Dites et pas lorsque Thomas Chisalo, il va empêcher tout ça parce que bon.
Ouais. Non. Quand on a dit, waouh, extraordinaire, Sean Marks, il a 850 000 picks de draft.
Exactement.
Je t'avais dit face caméra. Pour moi, c'est nul parce que c'est une vision beaucoup trop courte. C'est très bien d'avoir des picks de draft, mais comment est-ce que tu sélectionnes? On en revient à la compétence des gens à bien sélectionner les jeunes.
Ça, je suis d'accord. Mais ça, si tu parles de la compétence de draft, moi, je te parle du fait que laisser les GM accumuler des picks, c'est quelque part leur dire « Bah oui, vas-y, maintenant que t'as plein de picks, ton équipe, t'as pas envie qu'elle gagne trop de matchs, donc tu encourages le tanking. » Si aucun GM ne pouvait accumuler autant de picks, du coup, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de velléité à tanker.
Absolument.
C'est juste...
Oui,
tu vois, Sean Marks, au-delà du fait que il y a une discussion à savoir, faut faire des bons choix à la draft.
Ou le Jazz,
Ou le Thunder, qui lui a fait des bons choix, mais enfin, on s'en fout. Ou là, on va voir les Pacers à l'œuvre, voir d'autres gens. Ok, très bien. Mais concrètement, si chaque équipe, tout le temps, n'avait que son pick, déjà, en gros, t'en as qu'un au premier tour et un au deuxième tour, tous les ans. Et oui, il y a peut-être un peu de proba en fonction de qui a été le moins bon l'année d'avant pour savoir qui draft le plus haut et puis une petite loterie ou quoi.
Il n'y a aucun transfert de pick.
Non. On trade plus de pick. On échange des joueurs, des contrats, du potentiel, du machin. Et quand t'es dans la merde parce que ta star, t'as pas su la gérer ou ta star est une tête de con et elle veut s'en aller, bah t'es vraiment dans la merde, mais t'auras qu'un pic. Tu pourras pas trader contre 4 pics et dire, c'est bon, mais on va tanker, dans 2 ans on est de retour.
Non, tout à fait.
Tu as tanké avec ton pic. Voilà.
Mais tu tankes quand même.
Bah, potentiellement, tu tankes quand même.
Que tu peux quand même faire une saison de merde parce que du coup, tu vas augmenter tes probas avec
en disant avec ton pic le plus haut possible. Mais
fingers crossed, je vais être top 3.
Par exemple, du coup, tu vas tanker que pour un pic. Donc, tu vas avoir moins de stratégie. Aujourd'hui, ce qui fait aussi que le tanking parfois nous énerve et tout, c'est qu'on a des stratégies d'équipe où elles sont
en train de se dire. Dernière.
Ils avaient
la protection 1 à 8 et ils ont fait, il faut que la fin de saison, on gagne que 3 matchs
sur 37. Où t'as des équipes qui ont vraiment beaucoup de picks lors des prochaines drafts et qui donc ont intérêt à être bas pour avoir les picks les plus hauts possibles pour ensuite peut-être en échanger une partie et tout. Enfin, en gros, soit on laisse les gars tanker et gérer les draft picks comme des vrais assets et compagnie. Et on accepte que du coup ça fait partie d'une stratégie qui s'appelle le tanking
et que ça fait des belles histoires qu'on raconte parce que l'autre
était
second tour et
on trouve des règles comme ça, mais moi j'étais surpris que ça soit pas proposé parce que je dis pas que c'est parfait comme truc, mais je dis que c'est un début d'idée, c'est de mettre les GM aussi devant leurs responsabilités. Ta star elle veut se barrer. T'as pas de gros joueurs en échange, bah mon poteau, tu vas être obligé d'échanger contre les Capilla. Et là, tu vas voir que les mecs, ils vont devenir beaucoup plus exigeants sur les joueurs qu'on leur échange. Parce que comme t'as pas 4 picks contre Giannis Antetokounmpo,
bien sûr.
Là, si tu veux, le package du Jazz ou du Heat avec 0 gros joueurs ou quoi, tu fais, t'es gentil, mais...
Les transferts sont moins bizarres, c'est-à-dire que c'est pas genre 4 balles de ping-pong versus un joueur, qui aujourd'hui est devenu la norme, là, avec on a atteint le sommet avec Rudy Gobert, qui était échangé contre 7 picks de draft, 7 futurs.
Non, pas 7, si. Non, moi je trouve que vraiment les trades là de Memphis sont un très bel exemple de ça, quoi. C'est-à-dire que Memphis n'avait absolument pas l'intention de remplacer vraiment les joueurs par les joueurs obtenus dans les trades. Non, pas vraiment, pas du tout en termes de talent et de potentiel en tout cas.
Oui. Moi je t'avoue, je vérifie pour Rudy, c'était combien de picks de draft ? Putain. Je sais plus.
Voilà. Alors, moi, je ça va pas en arranger certains. Hein.
Moi, je t'avoue que je sais que c'est un petit peu extrême, mais oui, sur cette histoire de proba,
Toi, tu mets la même proba à tout le monde ?
Pas 30 équipes.
Pardon.
Mais à préciser et à retravailler. Mais déjà, deux choses. Un, la loterie aujourd'hui, elle est à huis clos, fermée, avec quelques GM à l'intérieur, etc.
T'as pas confiance ?
Si, moi j'ai confiance. Mais mon problème, c'est cette tête. C'est qu'en fait, quand on a vu ce qui s'est passé avec les Mavs et avec Cooper Flag, que les gens puissent imaginer que du coup, ce soit trafiqué, c'est un problème.
Moi, déjà, ça change quoi au tanking, ça ?
Je te fais tout le truc.
Vas-y.
Pour moi, déjà, la loterie, elle doit être publique. Donc, tout le monde peut la regarder.
Ok.
Deuxièmement, cette loterie, ça deviendrait un des événements les plus suivis de toute la NBA. Et nous, crois-moi qu'on ferait un live Twitch de fou malade.
Évidemment.
Parce que les 10 pires équipes de la NBA ont les mêmes probas. Ça veut dire que ça s'appelle une
10
loterie.
10 ou 14.
10, oh, avoir 10, avoir. 12, 14. Okay. Mais en gros, ouais. Évitez le 15, 13, 11, 9, etc. Une équipe qui a été pas très très bonne versus une équipe qui a été atroce. Désolé, je ne récompense pas l'atrocité. Vous allez avoir les mêmes probas. Donc toute ta stratégie de merde de tanking, eh ben, carre-la-toi bien parce que quand on arrive à la loterie, t'as fini avec le pick 5, alors qu'une équipe qui a quand même essayé d'être compétitive, un petit peu, qui a essayé de développer ses jeunes sur la fin de saison.
Elle a eu de la chance.
Elle a eu de la chance à ce qu'on appelle une loterie. Et la loterie, c'est de la chance. C'est un ticket, il y a marqué 32. Et si c'est le 32 qui tombe, c'est bien. C'est pas parce que j'ai moi 32 et toi t'as 34, 36, 38 et 44. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai du mal.
Le problème dans ça, c'est que petit marché qui est vraiment pas bonne et qui a du mal à faire venir des gros free agents, elle peut ne jamais avoir de chance et donc jamais avoir droit à son gros rookie.
Ma pauvre Lucette.
Non mais attends, c'est un vrai sujet.
Lucette. Ma pauvre Lucette
ou... Bah quand même, moi, c'est-à-dire... je trouve ça un vrai sujet. Bah je sais pas, genre, tu vois tes Spurs par exemple,
oui.
Qui sont pas un très gros marché,
ouais.
Qui sont pas une grosse destination de free agent.
Mm-hmm.
Bon, vous êtes quand même bien content d'avoir eu le first pick Victor Wembanyama, puis le top 4 avec Stephen Castle et tout. Potentiellement, tu
ouais.
pourrais ne jamais avoir de chance et dans tous ces drafts là, t'être retrouvé 11e à chaque fois.
Potentiellement.
Et en gros, non mais du coup,
et du coup,
je trouve que tu.
Bon, tu sais ce que ça va rééquilibrer ?
Ouais.
Exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire les management compétents. Parce que du coup, ça ne sert à rien d'essayer d'être dans le bottom 10 à chaque fois, puisque tu n'as pas l'assurance d'avoir un bon pic.
Ouais.
À partir du moment où tu sais que ta franchise doit être compétente, il faut être compétitif, faire des bons choix, donc on arrête de errer comme Sacramento.
Mais t'as pas peur
comme
que les équipes restent tout le temps en bas et n'arrivent jamais à remonter du coup ?
C'est une loterie.
Bah oui, mais...
C'est une loterie, et donc dans une loterie, parfois, tu es à la place numéro 1, tu es à la place numéro 2. Memphis est tombé numéro 2 et ils ont pris Ja Morant. C'est une formidable histoire. Comme tu as dit tout à l'heure, si c'était des rookie free agents, jamais Ja Morant il aurait signé à Memphis.
Enfin,
c'est pas sexy, c'est pas. Voilà, mais ça a été une des plus belles histoires de ces dernières années.
Je sais pas si Victor sera aux Spurs. Hein.
On sait pas si Victor sera aux Spurs. Mais pour moi, déjà, ce serait une loterie. C'est-à-dire que t'as 10 équipes qui sont attendues là, t'as une loterie publique et on est impatient à l'idée de savoir quelle est l'équipe qui va sortir. Et peut-être qu'on en reviendrait à l'enveloppe froide des Knicks, parce que c'était ça à la base. C'était quand même d'essayer de savoir quelle est l'enveloppe qui va être choisie en premier, etc. Mais je trouve qu'on en reviendrait même au concept de loterie, parce que sinon,
donc,
là, c'est
gros,
quoi ? C'est une loterie
mets,
un petit peu...
Tu prends les équipes qui ne vont pas en play-off, tu mets 14 boules dans une urne.
Ouais, et d'abord et on tire 14.
14.
Enfin, le premier logo qui sort,
ouais.
C'est l'équipe qui est sélectionnée en 14e place.
Et
je peux te dire qu'on a les pétoches qui rentrent dans le top 3. Parce que si ça se trouve, tu as les Suns.
Ouais.
Et si ça se trouve, t'as les Wizards.
Okay.
Et peut-être que Washington...
C'est rigolo, en tout cas. Ça a au moins le mérite d'être rigolo. Moi, je trouve ça vraiment trop peu égalitaire. Mais c'est vraiment, c'est rigolo. Je suis chaud pour regarder, moi. Je suis chaud pour diffuser. Hein,
bon,
si Adam Silver
voilà.
Tu nous
et
écoute,
en fait, c'est diffusé.
C'est en direct sur Trash Talk, il n'y a pas de problème. Ça.
Absolument.
On va bien rigoler.
Et je te jure, je le redis, je pense que si tu implantes ça...
C'est rigolo.
À partir du 1er mars, il n'y a pas de tanking. Parce que ça n'a aucune crédibilité d'avoir une stratégie de tanking à ce moment-là. Puisque tu as les mêmes probas que les 9 autres.
Sauf que par contre, d'accord, je suis d'accord, mais par contre, quand t'es nul et que t'as pas de bons joueurs, il y a des chances ou des risques plutôt que tu aies jamais cette chance à la loterie pour pouvoir te refaire, ce qui est le concept même de la NBA, c'est-à-dire les rookies hyper forts qui arrivent dans des équipes de merde et les mecs, on voit bien si c'est des franchise changers ou pas. Tu vois, genre, voilà, Cooper Flag qui arrive dans des Mavs décimés après le départ de Luka Doncic, ou qu'est-ce qu'on a eu, je sais pas, moi...
Enfin, Dallas, ils étaient quoi, 10e ? Ils étaient 10e, les Mavs ?
Non, Dallas a eu de la chance à la loterie. Dallas a eu de la chance à la loterie.
On s'est refait, on était 10e, on a atterri.
Non,
ah,
sûr.
Un diamant. Enfin, tu vois, les mecs...
Non, mais Dallas a eu de la chance à la loterie.
C'est chaud.
Bien sûr, c'est un exemple. Non, c'est...
Genre, Utah, quand est-ce que Utah a eu le premier choix de la draft ?
Oh, ça... Je crois... Non, c'est... Jamais. Si ? Bien sûr. Par contre, ils ont eu plein de pics très hauts.
Oui, mais ils n'ont jamais eu.
Oh, jamais, j'en sais rien. Faut vérifier. Mais
peut-être ils ont eu un dans les années 70 ou 80, mais ils n'ont jamais été, malgré la médiocrité récente, ils n'ont jamais eu la chance d'être numéro 1 de la draft.
Ah, ils n'ont pas eu de chance à la loterie.
Récompensons,
mais
comme tu l'as
dit. Mais ils avaient un petit garde-fou, quoi, un top 4-5 minimum à quasi assuré, quoi.
Mais mon système fait que tu peux quand même être à chaque fois deuxième. Hein.
Ah ben, bah, tu peux avoir de la chance à chaque fois aussi. Hein.
C'est pas forcément premier choix, tu vois. Tu peux
avoir de la chance à chaque fois.
Oui.
Potentiellement, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Non, mais j'entends, je dis pas que c'est pas. En tout cas, ça me ferait. C'est rigolo, au moins ça le mérite, on se marre.
Et en fait, j'ai pensé vraiment à toi, Léonce, toi, Alex, et moi, avec Simon sur le canapé, à faire une loterie, genre vraiment à couvrir ça, ce serait extraordinaire.
Oui, bon, de toute façon,
c'est. À couvrir en direct, un truc comme ça, parce que du coup, tu ne sais pas en démarrant la soirée où va finir Zion Williamson. Alors que là, aujourd'hui, quand t'as Cooper Flagg qui arrive.
Tu sais pas tout à fait non plus, là.
On en finit avec 3-4 casquettes, souvent. Sauf que là, si t'es un joueur comme Cooper Flagg, tu sais pas si tu vas finir à Utah, ou Dallas, ou Atlanta, ou machin, ou truc. C'est une loterie. Ou sinon, on appelle ça différemment. Une loterie arrangée, quoi.
Une loterie avec des probas, quoi. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais donc, tu veux quand même garder le concept de...
Aujourd'hui, ils sont à côté de la... On en revient au sujet
les
principal.
Équipes, les équipes les moins fortes ont quand même une chance d'avoir les joueurs les plus forts.
Oui,
quoi.
Oui.
Et on commence pas à filer des...
Non, mais Détroit... En fait, c'est aussi parce que ça dépend l'année où t'as le bon pic. C'est-à-dire que, bah, je suis bien placé, hein, les Hawks, ou même les Suns, hein, quand t'as Ayton. Les Hawks qui sont numéro 1 de la draft... Ah, désolé les gars, hein, t'es entre Wemby et Cooper Flagg. Tu sais que ça fait mal au cul, hein. 2003 OMB, 2025 Cooper Flagg, 2024, désolé Zachary, hein, mais t'es le numéro 1 de la draft la mauvaise année.
Les Suns, c'est autre chose, ils ont pris Ayton alors qu'il y avait Doncic.
Doncic, Shea, enfin un peu la liste, elle est
ouais, Shea était moins évident. Doncic était quand même assez évident.
C'était assez évident. Tu peux pas savoir à quel point la cuvée qui va venir, tu imagines qu'une cuvée va être extraordinaire.
Ah, la cuvée, là.
La cuvée a l'air dure.
C'est pour ça que le tanking est vénère aussi.
Et
c'est pour ça que ça m'énerve d'autant plus, parce que cette année, bien sûr que les mecs sont tous excités par la draft.
Ouais.
Bien sûr, il y a une cuvée de grands malades mentales. Ça se trouve, là je voyais des gars là, qui faisaient des reports et tout, ils disaient ouais, il y a 4 franchise players et tout. Je disais bon, doucement, on verra quand même en NBA, oui. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs très 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 forts là.
Et bah j'adorerais
que. Forcément, tout le monde les veut.
Et bah j'adorerais qu'il y ait comme l'année dernière, sauf que c'est pas les Mavs, ce serait autre chose, mais que ce soit une équipe qui soit 10e ou 9e qui finisse en 1, parce que le premier truc que je dirais face caméra, c'est chais aux équipes qui pendant des semaines. On crachait sur le basket et on dit notre stratégie c'est de perdre tous nos matchs. Voilà ta récompense.
Mais là je suis pas d'accord avec toi parce que l'année dernière les Mavs qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exprès de perdre la fin de saison après la blessure, après le trade de Luka et la blessure d'Anthony Davis. Ils font exprès de perdre pour baisser pour avoir une chance à la loterie et d'ailleurs ils l'ont eu.
Augmenter un petit peu leur pic. Ils pouvaient pas avoir les trois pires bilans mais ils ont augmenté leur probabilité.
Ils ont tanké quoi. Leur fin de saison c'est un tank.
Tout
les
à
Mavs.
Fait.
Là, c'est un tank de.
Ils l'ont fait parce que ce système actuel fait que.
Oui.
Tu peux augmenter tes probas. Si tout le monde a les mêmes
je pense que les Mavs essaient quand même de tanker leur fin de saison pour rentrer au moins dans la loterie.
Ah bah,
l'année dernière, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
C'est évident qu'ils ont fait ça parce que le modèle l'encourage.
Du coup, tu risques de faire tanker des équipes mid.
Mais oui, mais rien,
avec
par
un
exemple,
système comme ça. Ouais, en gros, le mec se dit attends, qu'est-ce que je fais ? Je vais tenter de me faire éclater au premier tour de play-off ou je vais tenter d'avoir la même proba que Utah. Tu sais que le choix, il va être vite torché. Hein.
Mais c'est
ça va être vite torché. Les mecs vont pas vouloir aller en play-off.
Et c'est pour ça que...
En gros, ça va tanker en sortie du top 4, quoi.
Mais non, mais c'est ce qui fait que certains se disent d'ailleurs qu'ils devraient tanker à partir d'encore plus tôt. Il y en a qui vont commencer à se dire « Pourquoi je tanque pas à partir de Noël ?»
Ça, c'est un risque aussi.
C'est un des risques. Et en fait, c'est marrant que tu pointes ça du doigt parce que ça me faisait penser à un sujet notamment qui a été mentionné par NBA, c'est... Avec les modifications qui ont eu lieu, il y a un peu ce côté soit top 4, soit bottom. Le ventre mou, maintenant, c'est compliqué de vivre dans ce ventre mou. Parce que, bon, il y a des cas comme Miami où, en fait, c'est rarissime, mais tu arrives à faire le play-in et à faire un run. Mais sinon, c'est un petit peu la place du con aujourd'hui.
Ouais, bah oui, on se fout de la gueule des Bulls, des Hawks.
Comment est-ce que tu fais si, là, parce qu'on s'occupe surtout du bottom, là, mais pour essayer aussi de rendre compétitif ces places... 7 à 10, tu vois, parce que souvent là on s'occupe de 11 à 15 en se disant ah, les mecs, battez-vous, bataille d'infirme pour essayer de savoir qui va avoir le plus de chances d'avoir le premier pick. Mais il y a aussi un problème sur les places 7 à 10. Parce qu'en gros, t'es envoyé comme cher à canon pour le premier tour de playoff, comme tu l'as dit, sauf cas unique comme le Heat.
Non, mais voilà, les mecs vont se battre en play-off. T'as aussi des équipes qui considèrent que c'est un passage, que c'est un chemin pour progresser.
Tout à fait, il y a un aspect financier, parce que les équipes qui vont en play-off se prennent un joli bonus.
Voilà, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect public, tu remplis ta salle et tout, machin.
L'expérience.
Il y a l'aspect aussi pour faire venir des joueurs après.
Oui.
Pour l'attractivité. Donc, on voit des équipes comme ça qui repassent par un petit coup de play-in, un petit coup de je me fais fumer. Bah, le Thunder, ils ont fait ça, le Thunder, avant d'aller jouer Dallas, tu vois. Ils bon, Memphis aussi est passé par. Enfin, tu vois, genre, bon, on verra. Cette année, on pourrait imaginer, tu vois, une équipe comme les Suns. On verra, parce que là, il y a des blessés et tout, mais toi qui es septième depuis longtemps maintenant, ça sent le play-in à plein nez pour cette
ça
équipe.
Ça sent le play-in pour vous.
Ça peut être une bonne expérience pour pas mal de joueurs de cette équipe, le jeune coach et tout. Donc,
chacun fait du play-in ce qu'il veut.
Voilà, le but du jeu, c'est effectivement, ce serait d'éviter qu'il y ait des équipes qui végètent dans cette zone, comme les Bulls ou...
Ou le Heat ou les Hawks.
Voilà, ou les trois équipes du play-in de l'Est de tous les ans maintenant, depuis que le play-in existe.
Tout à fait.
Alors, Heat Hawks... Bulls Raptors. Bah non, cette année, il y aura a priori pas les Raptors, mais
Oh non.
Mais oui, non, je suis d'accord, il y a un petit problème aussi de ventre mou, mais à un moment donné, il faut accepter aussi que la ligue est, la NBA c'est pas parfait, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des équipes qui vont tout le temps chercher ou réussir à profiter du système. Donc là, je trouve ça un peu fort que là tout d'un coup parce que cette année, c'est quoi le problème cette année? Ça leur plaît pas ce que font les Pacers, c'est ça? Et puis ça les énerve de voir tous les picks qu'ont OKC qui dominent la ligue et qui vont se taper des gros choix de draft potentiellement. Vas-y, c'est
vision
bon.
Trop courte.
Ah ouais, là vraiment
Du coup, par rapport à tout ce sujet, je finis avec une dernière question. Là, tu rentres comme ça. Là. Bah, tu rentres dans le bureau d'Adam Silver. Là, et tu dis ce que tu penses de ça, là, la situation du tanking. Est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit ou rien changer? Mais en gros, vas-y, adresse-toi à Adam Silver. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu fous, Adam? Faut rien changer?
Ouais, j'avoue, je serais pas loin de ça, moi.
Vas-y.
Ou je dirais plutôt, genre... D'accord, tu veux travailler le tanking. Est-ce que d'abord, on peut travailler sur le calendrier, ensuite sur l'arbitrage, ou l'arbitrage avant le calendrier, si tu veux. Et peut-être aussi les matchs, les reviews. Genre là, ça chouine souvent les audiences et tout. Et il y a un moment donné où faut aussi se remettre en question. Faut aussi se remettre en question. Il y a un play, d'où les mecs ont besoin de regarder 800 ralentis. On le voit bien qui a touché la balle en dernier. Au bout d'un moment, tu vois, genre parfois, t'es vraiment sur des trucs où là, c'est ridicule. Donc, tu allonges les matchs pour les gens qui sont dans la salle, les gens qui sont devant leur télé. Ça se veut international, mais l'autre, il oublie qu'on regarde ça avec des décalages horaires de fou malade dans beaucoup de pays du monde. Et que donc, à une certaine heure avancée, t'es saoulé par les fins de match. Tu vois? Bon, t'as juste besoin de savoir combien ton mec fait en TTFL, quoi. Le reste...
Le reste, c'est...
Non, mais concrètement, moi, en gros, ce que je veux dire, c'est que le premier truc que je dirais, j'ai un mec... Peut-être que ça sert pas autant tes intérêts business et tout ça. Ok, vas-y, lâche-moi avec ça. Mais juste, il y a des problèmes plus importants qui pourraient permettre de retravailler sur la qualité du produit, là, comme ils disent, là, avant les histoires de tanking. Voilà. Après, je sais pas si vraiment ça les énerve tant que ça. Tu refais pas le système. Par contre, tu fous des amendes absolument énormissimes aux équipes qui font vraiment pas jouer des joueurs aptes.
Et eux jouent souvent sur les injury reports en disant mais si il est vraiment blessé, il faut faire quoi? Il faut faire des arrêts médicaux maintenant?
Non, mais tu sais, quand ils montent l'image du banc, les mecs, il a pas fait jouer tu fous une amende de porc.
Tu
enlèves le pic. Je sais pas, tu menaces, tu fais des vraies sanctions. Mais pour moi, les équipes qui sont pas bonnes et qui sont nulles et qui gagnent assez peu de matchs, genre, on confond tanker, genre, foutre des joueurs au frigo et des équipes nulles. Genre, je suis désolé. Les Wizards, est-ce que c'est vraiment un tank cette année? C'est surtout une équipe pas très forte. Les Nets non plus. Les Pacers, ok, ils ont un peu tanké, mais ils ont quand même leur meneur qui est blessé, leur pivot qui est parti. Tu vois, genre, c'est qui à l'ouest
Ah, c'est les Pels. Les Pels, c'est juste qu'ils font nimp.
Ouais. Après, il y a le Jazz qui tanque un peu. Il y a qui d'autre? Il n'y a pas une équipe derrière eux?
Sacramento.
Sacramento, ils sont nuls. Hein.
Sacramento.
Ils sont nuls. Ils n'ont pas beaucoup de bons joueurs. C'est une équipe assez nulle.
Léon, tu dirais quoi, bien sûr?
Tu changes rien ou alors plus t'es dernier, moins t'es payé. Comme ça, au moins, les mecs, ils vont avoir des boules, ils vont voir jouer.
Ah, sur les joueurs, tu veux dire?
Ah, oh, ça, c'est dur sur les joueurs.
Ah bah, attends.
Genre, le 30e de la ligue, il a un moins gros salary cap que...
Quand
à la semaine.
Non, la semaine, t'as un bonus. Je peux te dire qu'il y a des mecs qui vont voir jouer.
C'est pas mal.
De toute façon, taper dans le portefeuille, ce sera le meilleur moyen de obtenir des solutions d'avoir des trucs.
Ok.
Moi, je.
Là, c'est intéressant.
Oui. Moi, je.
Toi, tu fais ton truc de loterie, là ?
Non, moi, je vais dire, écoute-moi bien, Adam. Assieds-toi déjà.
Listen to me.
Déjà, assieds-toi.
You're talking to me ?
Je sais que t'as la bougeotte et que t'as besoin de modifier des trucs tous les 6 mois. Là. Mais est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus large, s'il te plaît ? Plutôt que de vouloir modifier tout le temps les trucs là, modifie-moi le All-Star, modifie-moi le truc, le produit. Il faut qu'on instaure une nouvelle règle,
cher, hein.
Un nouveau truc. Bien sûr, mais en même temps, je peux en comprendre certains parce que on modifie. Bah, on modifie les règles, on modifie les machins, on modifie la free agency, on modifie la draft. Est-ce qu'on peut déjà avoir un vrai sample de plusieurs saisons avec un modèle et essayer de faire un vrai bilan pour voir ce qui ne fonctionne vraiment pas ? Plutôt que à chaque fois appuyer sur des boutons, tantons. C'est ce qui fait que d'ailleurs les gens sont complètement désintéressés du All-Star et que parfois, là, sur un alignement des planètes, on a un match qui peut être intéressant comme ça a été le cas. Déjà, je dirais à Adam, on se calme sur les modifications permanentes. Il n'y a pas un été où on ne reçoit pas une notification de « Au fait, nouveauté, cette saison NBA, pff, les arbitres, désormais, c'est des cosmonautes. »
On pourra faire 8 pas. C'est quoi
Donc déjà, on conserve le modèle tel qu'il est et on essaye d'avoir des vrais éléments pour faire une analyse et essayer de modifier. C'est-à-dire, est-ce que plusieurs années de suite, on a eu le 10e ou le 9e qui a eu le premier choix de la draft ? Est-ce que ce système-là des odds qui ont été un petit peu modifiés depuis 2019 fonctionne vraiment ou est-ce qu'il faut le modifier ?
Est-ce qu'on réagirait de la même façon si, par exemple, c'était les Lakers qui étaient derniers de l'Ouest et les Knicks derniers de l'Ouest ?
Mais jamais.
Never. Là, tout le monde serait là genre, bah nickel.
Mais
ah, les Knicks vont avoir un gros rookie. Tout le monde serait content
mais
là.
Exactement. Et c'est ce qui fait qu'en sortie du run.
Même Silver, on l'entendrait pas sur le sujet. Hein.
Exactement. Et c'est ce qui fait qu'en sortie du run du Heat en finale 2023, on était là genre en mode.
Ouais.
Non, mais c'est génial. Non, mais quelle révolution. Et les suivantes étaient là. Mais qu'est-ce que c'est nul, le Play Tournament.
On est tout
le temps. C'est un peu trop court vision.
Ah ouais.
Donc, je fais ça. Et par contre, je lui dirais, frérot, si ton désir, numéro un, c'est d'éliminer le mot tanking de la bouche de tous les fans et des stratégies de franchise, tu prends les 10 pires bilans de la NBA, tu fais une vraie loterie, roll the dice, et tu me fais ça publiquement parce que tes histoires de loterie fermée, où après tous les gens se disent comment ça
c'est rigged, ouais.
Et tu as vu Alex faire ça face caméra en mode ouais c'est rigged et tout. Si tu veux qu'on arrête ça, tu fais le truc public, c'est une vraie loterie et on ne sait pas si ce sont les Suns ou les Wizards ou machin qui vont récupérer telle équipe, et là on continuera à voir quels sont les managements qui sont capables de faire des bonnes sélections.
Non mais oui,
on se concentre.
trop de changements. Pas trop de changements, tu le changement.
Et c'est sur ces magnifiques paroles qu'on met un terme à cet apéro. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation-là, de tanking-là. Évidemment, les équipes qui sont dans le bottom, et même les équipes qui sont en haut, parce qu'on l'a dit, hein, dans 3 ans, on ne saura pas hein, comment ça va se passer. Là, on a Spurs Pistons, qui était une affiche de fou malade, il y a 3 ans, c'était un merdico.
Puis là, on a le Thunder qui a plein de pics encore.
C'est la folie. On
a les Hawks qui ont le pic des Pélicans, c'est ça. Enfin, tu vois, genre on a plein de choses, là. Bref.
On se retrouve bientôt, c'était le coup de gueule spécial tanking et on se retrouve vite sur la chaîne YouTube préférée. Des bisous,
ciao.
À la prochaine, ciao.
Ciao.